La photographie peut combler l'absence. Mai 2025, en feuilletant un vieux bouquin, une bénévole de la bibliothèque de Sterling Heights dans le Michigan découvre une photo de mariage en noir et blanc. Un couple en robe blanche et costume trois pièces. Griffonné au dos de l'image, une date, 26 septembre 1953, et deux noms, Frank et Joséphine Ruggirello. La dénicheuse publie l'image sur Facebook. Quelques heures plus tard, une internaute se manifeste. Elle reconnaît ses grands-parents disparus. Une mémoire ressuscitée racontée par le Washington Post. Si elle peut combler l'absence, l'image peut-elle raconter le manque, le vide? À force de chercher le père, mon invité de ce soir en a tiré une exposition et un ouvrage fruit de 10 ans d'enquête. Camille Lévesque est artiste. Elle expose à Arles jusqu'au 5 octobre dans le cadre des Rencontres de la photo au Ground Control. À la recherche du père, regroupe entretiens, photos, collages, objets et vidéos pour mieux déceler cette figure si intime et universelle. Bonsoir Camille Lévesque.
Bonsoir.
En dernière partie, on continuera de disséquer ce qui fait ou non un bon papa avec Bret Stephens, auteur flamand et génie de la BD, lui aussi en expo à Cherbourg avec le repère de la Méduse. À 18h30, comme tous les soirs, place au panorama de la culture. Au programme, une fronde de réalisateurs, une équilibriste flippante, des loups à éloigner et un voyage dans l'histoire du Mali. Alors posez-vous, allongez-vous carrément sur le divan, l'ombre de Papa Freud plane sur votre apéro du soir. Le Mac de l'été, c'est jusqu'à 19h sur France Inter.
France Inter, le Mac de l'été. Constance Villanova.
Camille Lévesque, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer à Arles pour voir votre exposition, est-ce que vous pouvez nous dire comment elle se présente ?
Alors, c'est une exposition qui est pensée vraiment comme une déambulation, où on passe un petit peu d'une pièce à une autre ou d'un chapitre à un autre du livre. C'est vraiment une exposition qui fait écho au livre. Et l'idée, c'est de parcourir un peu toutes les étapes de la recherche que j'ai menée pendant 10 ans.
Sur le père, ouais.
Sur le père, la figure paternelle, son absence, sa présence, l'impact qu'il peut avoir dans nos vies, qu'on soit fils ou fille. Et vraiment, avec quelque chose d'assez multimédia, il y a du son, il y a de la vidéo, il y a différents types de formats, des papiers peints, des choses beaucoup plus petites, beaucoup plus intimes, des objets. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est pensé comme une déambulation un peu immersive.
Avant d'en savoir plus sur votre parcours, Camille Lévesque, et votre dernier travail, j'espère que vous avez pris vos lunettes de soleil. On passe au moment mag, au moment test. J'aimerais savoir quelle haussienne vous êtes. Elle ressemblait à quoi, Camille Lévesque, vos vacances quand vous étiez enfant ?
Alors, c'était toujours les mêmes. Elle se passait dans le Var, avec mes frères et sœurs et ma mère, dans la maison de ma mère. Et c'était des maisons, des vacances où on s'ennuyait un peu, mais on s'ennuyait à quatre. Et du coup, c'était génial. C'est une époque où on s'ennuie encore. Il n'y avait pas d'écran, on n'avait pas autant de jeux, de divertissement. Et on avait vraiment un pouvoir d'imagination incroyable avec mes frères et sœurs. Et c'est des souvenirs assez heureux, d'ennui joyeux.
Vous êtes plutôt rivière ou plutôt plage ?
Plutôt montagne.
Ah ! Vous y allez ? Est-ce que c'est vos vacances idéales, la montagne ?
C'est mes vacances idéales.
Le son qui fleure bon l'été, selon vous ?
Le vent, justement, dans les arbres à la montagne.
Et l'odeur de l'été ?
Le pétrichor.
C'est-à-dire, je ne le connais pas.
L'odeur de la terre après la pluie.
On va plonger dans vos origines arméniennes, dans les voyages d'ailleurs qui ont façonné votre œuvre, Camille Lévesque. Mais avant ça, moi j'ai envie de vous replonger, vous, dans l'été de vos 20 ans, le premier été de liberté. On est en 2005. Cet été-là, les adolescents et les adolescentes, surtout de France, vibrent pour la série espagnole Un, dos, tres sur M6. Michael Jackson, malgré des témoignages accablants, est innocenté de 10 chefs d'accusation, dont de violences sexuelles sur mineurs. Mais il se passe beaucoup d'autres choses. Écoutez bien.
Mes chers compatriotes, la France s'est démocratiquement exprimée. Vous avez majoritairement rejeté la Constitution européenne. C'est votre décision souveraine et j'en prends acte.
Lance Armstrong passe la ligne, le tour est gagné, le vélo, c'est terminé. À tous les sceptiques, je suis désolé pour vous que vous ne puissiez pas rêver, pas croire en miracle. Il n'y a pas de secret, j'ai travaillé dur pour y arriver.
Tu étais l'élu, c'était toi! La prophétie voulait que tu détruises les sites, pas que tu deviennes comme eux! Tu devais amener l'équilibre dans la force, pas la condamner à la nuit!
la télévision numérique terrestre, un événement pour la télévision française, plus même une révolution.
Alors, on a entendu Jacques Chirac sur le référendum de la Constitution européenne, Lance Armstrong gagnant du Tour de France, Gorillaz, Star Wars épisode 3, puis l'arrivée de la TNT. Camille Lévesque, vous vous souvenez de l'été de vos 20 ans ?
Oui, assez bien. J'ai passé cet été-là en Turquie. J'y étais pendant quelques mois, où j'habitais à la frontière iranienne, au pied du mont Ararat, dans une toute petite ville qui s'appelle Doğu Beyazıt.
C'était pour le travail, c'était pour des vacances, pour...
C'était, ça sonne très cliché, mais pour me perdre et me trouver en même temps. C'était aussi pour du travail, parce que je faisais beaucoup de photos à l'époque des vestiges du royaume arménien, donc dans la région, et notamment des photos d'Ararat, côté Turquie.
On va parler de vos voyages et de vos photos, mais d'abord on reste en 2005 avec Madonna qui crie dans son Juste au corps rose, c'est Hung Up sur France Inter.
Time goes by, so slowly, time goes by, so slowly, time goes by, so slowly, time goes by, so slowly.
C'était Hung Up de Madonna, vous aurez reconnu le sample du mondialement connu Gimme Gimme de ABBA.
France Inter. Le mag de l'été.
La population de l'Artsakh ne peut pas intégrer l'Azerbaïdjan, envoyer nos enfants dans leurs écoles, aller dans leur armée pour combattre celle de l'Arménie. Ce qui s'est passé, c'est le pire des cauchemars qu'on ait jamais fait. Jamais on n'aurait pensé que la mère patrie, l'Arménie, nous laisserait seuls face à un tel génocide, sacrifié, massacré par les Azerbaïdjanais, les Turcs et les Russes, dans l'indifférence des Européens et des Américains.
Le musicien Arthur Krasent, donc c'est la musicien du Karabakh, On est le 26 septembre 2023. Plus de 13 000 réfugiés sont arrivés en Arménie une semaine après l'offensive azerbaïdjanaise. Camille Lévesque, vous avez débuté comme reporter photographe pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Arménie. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette expérience?
C'est une expérience qui est arrivée vraiment avec de la chance. C'est moi qui me suis présentée au QG de l'ONU en leur disant que je voulais travailler avec eux.
Et je rappelle, je ne l'ai pas dit encore, que vous êtes d'origine arménienne.
En effet, oui, je suis en effet d'origine arménienne. Et à cette époque, c'était juste après mes 20 ans, après ce fameux été, j'ai emménagé en Arménie. Et j'ai eu ce poste de reporter que j'ai exercé pendant un peu plus d'un an, à Yerevan et en banlieue d'Yerevan, dans la banlieue d'Erebouni, où il y avait énormément de locaux dans lesquels étaient logés, en fait, de manière temporaire, c'est censé être temporaire, beaucoup de réfugiés du Karabakh, hein, qui y sont encore aujourd'hui. Et qui en plus ont été rejoints par les 120 000 personnes déplacées en 2023. Donc l'idée c'était vraiment de travailler avec eux et c'est quelque chose qui s'est fait complètement à l'audace et ça a payé.
C'était un travail artistique, un travail de documentation. Est-ce que vous avez réussi à jongler avec les deux?
C'était à 100% documentaire. Je pense que j'aurais jamais pu envisager un travail artistique à cette époque. C'était un sujet beaucoup trop grave pour moi. Et du coup, c'était vraiment du documentaire pur. C'était participer au recensement, prendre des photos, faire des prises de vue des conditions de vie, prendre des photos des passeports, documenter un petit peu les conditions de vie, leurs histoires. Il y avait du texte aussi, mais c'était vraiment absolument pas artistique.
Quelle place l'Arménie continue-t-elle d'occuper dans votre œuvre, Camille Lévesque?
Dans mon œuvre, une part énorme. La moitié de mes projets parlent de l'Arménie. Et s'ils ne parlent pas de l'Arménie directement, ils parlent de cette idée de mythologie familiale, de transmission familiale, d'héritage culturel, de nostalgie, de mélancolie. Donc c'est vraiment omniprésent dans mon travail et dans ma vie.
Vous avez même baptisé l'une de vos expositions précédentes « Donne-moi ta peine », c'est ça?
Oui.
Comment on le dit en arménien?
Savet tanem.
Vous me racontez ce que ça veut dire et d'où vient cette expression?
C'est une expression arménienne qui est très courante et qui dit littéralement « je prends ta douleur, je prends ta peine » et qui signifie de l'empathie. Et qui pour moi, je trouve que c'est très beau, j'aime énormément la langue arménienne, c'est une langue très lyrique, très belle. Mais aussi c'était vraiment pour parler d'un projet qui traite de l'héritage du trauma. Donc c'était assez bien trouvé cette image-là pour parler justement de cette transmission de la douleur, comment la réparer, comment essayer d'obtenir réparation, parce que je rappelle quand même que le génocide arménien n'est toujours pas reconnu par le gouvernement turc. Donc essayer de réparer ça et aussi de s'émanciper de ça quelque part, de dépasser ce trauma et de ne pas le transmettre aux générations suivantes non plus.
Vous avez parlé aussi d'identité. Vous avez créé un collectif habité par 6 de vos alias. Vous créez sous 7 noms différents, c'est ça?
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez multiplié vos identités artistiques?
Plus que des alias, c'est vraiment l'idée d'un hétéronyme que j'ai emprunté à Fernando Pessoa. Je suis très très influencée par la littérature et l'usage de l'alias ou l'hétéronyme, c'est très présent dans la littérature. Que ce soit Boris Vian, Georges Sand, Fernando Pessoa, même les jeux, tous les exercices de style de Raymond Queneau, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir expérimenter. Je pense que dans le monde de l'art, et surtout en France, il y a on a peur d'expérimenter parce qu'on a peur d'échouer. Et il y a vraiment cette idée de pouvoir expérimenter librement, que s'il y a un échec, c'est pas sous mon nom, donc c'est pas tout à fait aussi direct. Et de surtout faire hommage aux femmes de ma famille, donc d'utiliser des noms de mes grandes-tantes, de mes grands-mères, de mes sœurs, et de jouer avec ce que j'appelle cette mythologie familiale, raconter ces récits familiaux pour pas qu'ils soient oubliés, pour qu'ils soient transmis, les mettre à l'honneur, et cette idée vraiment d'expérimentation artistique aussi.
En parlant d'expérimentation, votre art, il mêle plein de médiums différents. Vous ne voulez pas qu'on vous dise seulement photographe. Pourquoi vous choisissez tous ces supports?
Parce que je pense qu'il y a plein de manières de raconter des histoires. C'est aussi pour ça que l'exposition à la recherche du père, il y a beaucoup de supports différents. Je vais chercher à plein d'endroits, je toque un petit peu à toutes les portes. Je suis très curieuse aussi, je suis intéressée par plein de choses différentes. J'irai trouver dans la littérature ce que la photographie ne dit pas. J'irai trouver peut-être dans la musique l'émotion que j'aurais pas avec une image. Donc c'est vraiment des choses qui m'intéressent, que j'ai envie d'expérimenter. Et c'est que des outils supplémentaires pour raconter les choses de la manière la plus juste. On raconte pas forcément la même chose avec des outils différents.
Plusieurs supports, plusieurs identités. Vous avez étudié la littérature et les arts appliqués à Paris avant de poursuivre en Californie à l'université, c'est ça?
Alors, pour être tout à fait franche, pas du tout. Je suis autodidacte.
Ok, d'accord.
Et c'est vrai que c'est sur Internet, il y a un peu marqué les deux versions.
D'accord.
Mais c'est entièrement ma faute. C'est absolument moi qui joue ce jeu-là. C'est vrai qu'en France, comme je le disais, on est assez frileux, mais aussi, on est aussi très académique et on est un pays où
Et donc, vous avez injecté ces infos sur Internet.
Exactement. J'ai un peu pallié à ce côté autodidacte. Parce que je pense qu'être autodidacte en France, c'est valoriser à un certain stade de carrière. Oui. Par contre, en début de carrière, être autodidacte, c'est vraiment... rédhibitoire. Oui. Et c'est vrai que pour postuler à des prix, pour postuler à des résidences, c'était des choses un peu institutionnelles, c'était impensable de dire que j'étais autodidacte et j'ai bien fait.
Mais c'est génial. Donc pas du UCLA, pas de l'université de
Malheureusement,
Californie.
Malheureusement, non, pas du UCLA.
Ça en jette. En revanche, vous êtes fascinée par les États-Unis.
Oui, j'ai vécu à Los Angeles.
Pourquoi vous êtes fascinée par l'Amérique? Qu'est-ce qui raconte ce pays pour vous? Et on le voit d'ailleurs dans votre expo, hein, il y a énormément de matières américaines, de photos de famille américaines.
Énormément. C'est un pays où j'ai vécu de nombreuses années, qui m'a énormément permis de m'émanciper, moi, cette rigidité qu'il peut y avoir en France, notamment dans le monde de l'art. Aux États-Unis, il y a un côté un peu « fake it until you make it », qui est vraiment « tente et fais semblant et ça va le faire ». Et il y a beaucoup plus d'audace. Je pense que c'est un pays dont on se moque beaucoup. On est assez condescendant en France par rapport aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup de choses à en redire. Il y a beaucoup de choses catastrophiques qui se passent aux États-Unis. Mais il y a aussi une forme de liberté presque complètement dingue, un peu une folie douce, mais qui est enivrante, en fait, surtout quand on est dans la création. Donc ça, c'était vraiment formidable pour moi, ces années charnières. C'était entre 25 et, si je ne me trompe pas, entre mes 24 ans et mes 32 ans, peut-être. C'était vraiment des années fondatrices.
Et il y a quelque chose que vous avez dit en interview qui m'a particulièrement marquée, c'est qu'on sous-estime la différence culturelle entre nous et les États-Unis.
Énormément. Entre nous et les Anglo-Saxons. Et ça m'a énormément frappée, parce que je me suis pris de plein fouet cette différence culturelle que j'ignorais complètement. Surtout dans la communication, les rapports humains. C'est un pays qui est quand même très déshumanisé. C'est un pays qui est en grande souffrance d'un point de vue de santé mentale. Dans la communication, les gens sont vraiment derrière leurs écrans à l'extrême, en fait. Les rapports humains sont complètement factices. On voit des gens qui tuent leur famille au bout de 20 ans parce qu'ils vivaient un mensonge. Enfin, c'est complètement dingue, en fait. On va dans les extrêmes de ça. Et j'étais très seule aussi aux États-Unis parce qu'on est vite entourée, mais on se sent quand même très seule. Et c'est vrai que le moment où je me suis sentie le moins seule et le plus à la maison, c'était en déménageant à Détroit. À Détroit et à Dearborn, en fait. À Dearborn, notamment, il y a la plus grande communauté musulmane des États-Unis. Et en fait, il y a des quartiers où tout à coup, je me sentais bien, on se sentait bien avec mon conjoint. Et c'était des quartiers que avec des Irakiens, des Syriens. Et en fait, tout à coup, on se sentait beaucoup plus proche de cette vie-là. C'était beaucoup de vie dans la rue. Les Américains vivent dans leur voiture. Et là, on se sentait beaucoup plus proche de cultures qui paraissent pourtant plus éloignées dans la manière de vivre et la manière de communiquer.
On va continuer à explorer votre univers et cette recherche du père Camille Lévesque. Ça sera après un petit panorama culture. Mais d'abord, on écoute Camille Yembe qui nous chante ses coups de soleil sur France Inter.
Quelques coups. L'hiver s'installe dans tout l'appart, sur nos visages. Est-ce que nous deux, ça se sépare? J'aimerais qu'on l'attrape.
Quelques coups de soleil.
Il faut de soleil.
C'était Camille Mb pour Coup de Soleil. Nous, on enchaîne dans le noir du studio.
Le mag de l'été. Constance Villanova sur France Inter.
Tous les jours à 18h35, le mag de l'été passe en mode vigie culturelle et il est 18h33 d'ailleurs. C'est le panorama.
Panneau.
Oui.
Obé. Non, c'est panneau.
Marco Vedi. Innostunut elokuvasta.
Je ne suis pas vraiment passionné par le cinéma. C'est plutôt la vie qui est très intéressante. Et je trouve que ce serait beau si les gens pouvaient mieux se traiter. Les poissons doivent se bagarrer dans l'eau et ils se mangent. Cela fait partie de la lutte pour la survie. C'est une autre histoire, mais l'homme à la littérature, pas les poissons.
Le réalisateur finnois Aki Kaurismäki, que l'on connaît pour Les Feuilles Mortes, nous parlait en interview d'humanité. Et il en est question d'humanité dans cette tribune qu'il signe aux côtés de 35 autres cinéastes. La raison, la plateforme adulée des cinéphiles Mubi, vient de signer un accord financier avec Sequoia Capital. Sequoia Capital, c'est un investisseur dans la technologie militaire israélienne. Un beau chèque de 100 millions de dollars. Parmi les autres signataires de cette lettre ouverte, Radu Djoud ou Miguel Gomez. Dans ce texte publié la semaine dernière sur le site de Variety, les frondeurs dénoncent, je cite, « la croissance financière de Mubi est désormais explicitement liée au génocide à Gaza, ce qui implique aussi chacun d'entre nous qui travaillons avec Mubi. »
Il y a des gens, quand ils voient du travail de suspension, qui trouvent que c'est génial, tout est léger, finalement on flotte dans l'air, finalement hein, c'est cool. Des fois on se fait engueuler parce qu'on met pas de tapis, qu'on pourrait tomber, etc. Donc on est, c'est tout normal quoi, surface de projection pour les affects des gens. Et c'est pour ça que on n'est pas dans un travail où on veut passer un message, dire je sais pas quoi. On travaille pour être une surface de projection pour que les gens puissent projeter, se lire eux-mêmes en fait là-dedans.
La géniale Chloé Moglia nous fait tourner la tête jusqu'à décrocher les étoiles et sûrement quelques mâchoires pour l'activité culturelle gratuite du jour. À Paris, la compagnie Rhizome présente Rouge Merveille, un solo vertigineux interprété par Mélusine Lavinet-Drouet. Suspendue à bout de bras au sommet d'une structure métallique, l'acrobate ondule au rythme d'une musique envoûtante. Installée dans le jardin Rachmaninoff au cœur du 18e arrondissement, cette performance sans filet s'offre à 19h ce soir. Allez foncer en famille, c'est la dernière. Gare aux torticolis.
L'un des plus grands royaumes de l'histoire était dirigé par un homme noir. Je le sais, cette phrase peut sonner irréelle pour certains. Et pourtant. Mansa Moussa est un roi du 14e siècle qui régnait sur l'Empire du Mali et il a tout simplement marqué l'histoire.
Un voyage dans le temps et dans l'espace avec cette fiction signée Anne Israeli, réalisée par Sybille Clamence du côté des studios de nos confrères de Move. Portée par un casting impeccable, la série nous emmène au Mali. Dans la vie de Mansa Moussa, souverain visionnaire du 14e siècle, ayant régné sur un empire s'étendant de l'Atlantique à Gao. En 5 épisodes, cette fiction éclaire un pan méconnu de l'histoire comme un conte initiatique. Mansa Moussa, le roi des rois, en podcast sur l'application Radio France, à découvrir sans attendre. Une belle occasion de dire au revoir à Move, dont les émissions ne seront plus diffusées à la rentrée.
You're being so much like your father.
Do not compare me to my father.
I didn't compare you to him. I said you were acting like him.
You're exactly like your mother. Everything you're complaining about her, you're doing. You're suffocating Henry.
First of all, I love my mother. She was a wonderful.
Les engueulades de couple feraient déguerpir les nuisibles. Le Wall Street Journal révèle que le département de l'agriculture américain a adopté une stratégie pour protéger le bétail des attaques de loups. Lorsqu'un drone thermique repère un prédateur, il diffuse le son d'une scène du film Marriage Story de Noah Baumbach. Scarlett Johansson et Adam Driver s'y insultent violemment. Une technique qui a permis de faire chuter les attaques de loups. Mais comme nous n'avons rien à voir avec ces canidés, vous n'avez pas d'excuses pour ne pas découvrir ou redécouvrir Marriage Story, une pépite sortie en 2019, à rattraper d'urgence sur Netflix.
Pourquoi t'as pas le même nom que maman et moi ?
En général, les enfants portent le nom des papas, mais maman et moi, on a décidé de pas faire comme tout le monde. Je m'en fous que tu me portes pas mon nom. Mais un jour ou l'autre, un copain à l'école va lui dire que je suis pas son vrai papa.
On s'était dit qu'on lui parlerait vers les 6-7 ans, on y est. Hein. Imagine qu'il m'arrive quelque chose. Qu'est-ce que tu ferais avec Jim?
Ben, je l'adopterais.
Avec le roman de Dim, les frères Larieux poursuivent l'essence de la paternité. Être père, est-ce que c'est concevoir un enfant ou bien l'élever? Quand il y a rupture, la filiation forte mais légalement inexistante qui unit un enfant à celui qui l'a élevé peut être rompue. Ce rôle de père bouleversant a valu le César du meilleur acteur à Karim Leclou en 2025. Avec moi ce soir à la table du Mac de l'été, Camille Lévesque, votre exposition à la recherche du père a ouvert ses portes au Ground Control à Arles le 7 juillet. Et vous avez publié en parallèle un livre qui revient en texte et en images sur cette enquête de 10 ans chez Delpire & Co. Camille Lévesque, pourquoi la figure du père vous obsède-t-elle autant ?
Ça va être extrêmement cliché, mais parce que justement, moi, j'ai grandi avec une absence du père, avec une famille, du coup, qui ne correspondait pas à la norme qu'on nous renvoie tout le temps, en fait, une espèce de norme de famille nucléaire, hétéronormative. Du coup, je sortais de ce cadre-là. Il y avait un rapport au père qui était assez compliqué, très éloigné. En vie mais absent et puis après mon père a décédé plus tard, donc il y avait vraiment cette absence dans, on va dire, théorique et physique, et l'idée c'était vraiment de réfléchir à cette figure là dans la représentation des photos de famille en premier lieu, parce que c'est ce qui manquait dans les miennes, et puis finalement à réfléchir chez les autres, à aller voir vraiment chez les autres ce qui se passait et comprendre comment on est inondé en fait de manière insidieuse par ces représentations dans la pop culture, dans les publicités, dans les médias, dans les films, en fait comment on représente le père. Donc toutes ces questions là qui ont donné lieu à des recherches en sociologie, en psychologie, beaucoup de lectures, beaucoup de recherches dans des photos de famille et dans des iconographies assez variées. Et voilà, c'est vraiment comme ça que c'est né, cette idée d'enquête. En fait, plus j'ouvrais des portes, plus j'en voyais d'autres à ouvrir. Et c'est à partir du milieu du projet que j'ai commencé à faire intervenir d'autres voix que la mienne, donc par le biais d'entretiens. Donc il y a des entretiens avec plein de personnes. C'est vrai que c'est très peu présent dans l'exposition parce que c'est difficile de mettre trop de texte dans une exposition, mais dans le livre, tout est là. Mmh. C'est des entretiens avec des pères qui parlent de la paternité.
Des entretiens quasi de sociologues, hein. C'est le même questionnaire qui est donné à ses pères, en fait.
Oui. Mais justement, en essayant de partir avec des panels les plus différents possibles, avec des milieux socioculturels assez différents, mais toujours avec les mêmes questions, pour voir un petit peu si des choses s'infirmaient ou se confirmaient. Il y a aussi une interview avec le prêtre d'Ivry-sur-Seine pour la question un peu la question morale du bon père et du mauvais père, et aussi l'usage du terme père dans la religion catholique.
Pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant.
Pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant, ce paradoxe-là est d'être le fils de Dieu, et en même temps toute cette ambivalence. Il y a beaucoup d'entretiens avec des travailleuses du sexe, pour parler du patriarcat évidemment, mais du fétiche de l'inceste, qui a donné lieu à des conversations vraiment très intéressantes, bien qu'assez horrifiantes. Et justement aussi, on parlait de la culture anglo-saxonne qui est très présente et américaine dans mon travail, cette idée des daddy issues.
Donc les problèmes liés au père sont
les problèmes liés au père, et qui sont souvent, si ce n'est exclusivement, portés sur les filles, à qui il a manqué le père, et qui dérivent de la morale, de la norme, de la morale de la société. Donc vraiment blâmer ces femmes en disant qu'elles ont des problèmes de père et on ira blâmer la fille et pas le père absent.
On va revenir en détail sur quelques chapitres, quelques séquences de cette expo, mais moi il y a une partie qui m'a particulièrement intéressée. Dans votre enquête, vous avez cherché l'image du père sur Internet. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez entrepris cette démarche et quel résultat vous avez obtenu? Vous avez tapé père sur un moteur de recherche, c'est ça?
Alors c'est aussi bête que ça, avec des moteurs de recherche, je cherchais père, à quoi ressemble un bon père, image de père en HD, à quoi ressemble un mauvais père, etc., les phrases les plus incongrues les unes que les autres. À l'époque, il n'y avait pas vraiment cette prolifération de l'intelligence artificielle, mais je pense que je l'aurais utilisée si ça avait été le cas. Justement parce que je trouve ça très intéressant de travailler avec des algorithmes, de réfléchir un petit peu à, en changeant des mots-clés, ce qui peut intervenir, ce qui peut surgir. Et il y avait vraiment des récurrences d'images. Et notamment quand je le faisais aux États-Unis, parce qu'à l'époque où le projet est né, j'habitais aux États-Unis, et c'était vraiment beaucoup de militaires, par exemple, beaucoup de militaires qui revenaient à la maison. Donc c'est assez intéressant parce que c'est toujours cette figure forte, protectrice, mais absente,
virile, mais absente,
complètement absente. Et on mettait en scène son retour, le rapport de tendresse avec ses enfants, alors que c'est quelqu'un de complètement fantomatique dans la vie de sa famille.
Justement, vous êtes un peu une brocanteuse. Vous êtes allée chercher plein de photos de famille dans des, je sais pas comment on pourrait dire, dans des bazars aux États-Unis. C'est quoi la posture des pères sur les photos en général? Là, vous avez parlé du militaire, mais dans le livre, dans l'exposition, quelle posture sur les photos de famille prennent les pères?
Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que à part certains albums où j'avais la certitude que les hommes étaient des pères ou des photos où c'est évident, vu la mise en scène, que ce sont des pères, il y a ce jeu aussi de projection de ma part où je fantasme complètement un père, alors que parfois ça peut être un oncle, un voisin, un parrain. Mais moi, je décide que c'est le père. Ce qui est intéressant, c'est que ils sont toujours dans une position de domination physique dans la photo. Ils sont toujours mis en avant. C'est toujours des photos, les photos de famille, c'est très intéressant parce que c'est mis en scène. C'est pris essentiellement pour les autres. On peut parler du souvenir familial, mais c'est aussi des photos qu'on montre, qu'on partage. Donc c'est vraiment une mise en scène pour les autres, pour
montrer. C'est performatif.
C'est complètement performatif. Et on reproduit génération en génération cette idée de la performance de la photo de famille. Et il y a quelque chose qui m'a passionnée dans mes recherches en sociologie, justement, sur la photo de famille. C'est que ce sont les mères, en fait, qui sont tout le temps derrière l'album de famille, derrière la charge mentale de prendre les photos, de documenter, d'orchestrer l'album. Et du coup, elles sont absentes des photos. Parce que ce sont elles qui les prennent. Et qu'au final, le père, qui est pourtant le maillon faible, on va dire, ou le grand absent des familles, de manière générale, est tout le temps présent dans la photo, quand il est présent dans la famille, parce que c'est la mère qui lui demande.
Vous matérialisez d'ailleurs l'absence du père par une série d'images découpées. On voit le visage du père qui va être découpé au niveau du col de la chemise. Vous pouvez nous éclairer sur ce choix symbolique ?
C'est un choix qui est symbolique, c'est un choix qui est très simple aussi, très efficace visuellement. Il est un peu grotesque dans la manière de détourer l'image parce qu'on reste au niveau du col, de la robe de chambre, du col de chemise. Du coup, ça fait vraiment un effet visuellement un peu étrange.
Mais c'est pour moi montrer l'absence en photo.
Ouais. Justement, et c'est pour créer ce malaise, cet étrange de l'absence. On utilise tout le temps historiquement la photo pour la preuve par l'image. C'est vraiment l'idée du documentaire et la preuve par l'image. Ce travail, c'était montrer justement d'autres réalités et la preuve de l'absence par l'image, de manière paradoxale, de vraiment prendre à contre-pied l'outil et de montrer aussi que l'absence d'un parent, que ce soit un père ou une mère, dans une vie de famille, ça prend toute la place et ça ne doit pas être invisibilisé.
Dans vos entretiens, il y a cette question qui revient. Le père est aussi victime de cette image, de cette performance de virilité. Est-ce que vous avez pu échanger avec des pères qui se sentent mal à l'aise aussi dans cette image d'Épinal-là ?
Bien sûr,
ça les emprisonne.
Bien sûr, c'est évident qu'ils sont prisonniers de ça. Je pense que les hommes, en ce moment, il y a beaucoup de questions sur les hommes, la masculinité toxique, la performance de virilité, de masculinité, les incels. Enfin, il y a vraiment cette idée à repenser pour les hommes de... Oui, ils sont un peu sous les feux des projecteurs, comment ils se comportent, comment ils interagissent. Et du coup, le père, évidemment, est très présent dans cette conversation parce que c'est aussi des hommes qui veulent parfois déconstruire l'image du père qu'ils ont eu, qui était beaucoup, c'est générationnel aussi, mais des pères absents ou des pères abusifs ou juste des pères tristement absents, même présents physiquement, mais assez absents dans l'éducation. Et c'est quand même dans l'ensemble des pères, ça revenait pas mal, qui sont assez présents, assez investis dans la vie de leurs enfants et qui veulent repenser la parentalité, la paternité, c'est certain.
Camille Lévesque, avec toute l'équipe du Mac de l'été, on a eu envie de vous faire croiser une autre quête, une autre mémoire, celle de Bret Stephens, auteur flamand aux traits vibrants, qui explore lui aussi la figure du père, ce mystère tendre et trouble dans sa dernière bande dessinée, Le Roi Méduse. On reprend juste après le groupe de pop anglais Pulp qui annonce son retour avec le single Spike Island sur France Inter. Something stopped me, dead in my tracks. I was headed for disaster and then I turned back. I was wrestling with the coat hanger. Can you guess who won? The universe shrugged, shrugged and moved on. It's a guess, no idea. It's a feeling, not a voice in my head. Just a feeling. Ashamed I was selling the rights. I took a breather and decided not to ruin my life. I was conforming to a cosmic design. I was playing to time until I walked back to the garden of earthly delights. I was born to perform. It's
And no one will ever have the last word, because it's not something you could ever say. So swivel.
Spike Island du groupe Pulp sur France Inter.
Le mag de l'été sur France Inter.
Pour ceux qui nous rejoignent, je suis toujours avec vous, Camille Lévesque. Vous êtes aux manettes de cette brillante exposition à Arles, à la recherche du père. Et nous avons été rejoints par Brecht Stevens. Bonjour.
Bonjour.
Auteur de bandes dessinées flamands au style pictural foisonnant, votre univers fait l'objet d'une exposition cet été à Cherbourg, intitulée « Le repère de la méduse », en écho à votre dernière BD « Le roi méduse », premier tome d'une trilogie parue chez Actes Sud en janvier 2024. Brecht Stevens, votre bande dessinée raconte l'histoire d'un enfant qui se retrouve englouti dans le complotisme un peu sombre de son père, même carrément sombre. Pourtant, vos planches, elles sont très colorées, elles sont foisonnantes, je l'ai dit. On peut utiliser la couleur pour raconter l'obscur ?
Oui, facilement. On peut raconter tout avec du couleur. C'est probablement même mieux de l'utiliser pour pas trop téléphoner que ce qui arrive va être un roman graphique sérieux ou des sujets déprimants, quelque chose comme ça.
Vous voulez jouer sur le contraste, en fait ?
Quand nous sommes tristes ou quand nous sommes en trouble, nous ne sommes pas soudainement dans du noir et blanc. Mm. On reste dans le monde normal. Et la couleur est juste nécessaire pour distinguer des éléments dans des dessins aussi. C'est utile.
Oui, c'est plus pratique aussi. Camille Lévesque, d'ailleurs, votre livre, malgré sa couverture sombre, on le disait en off, qui ressemble à une bilbe, regroupe des photos très très colorées, parfois assez pop. Cette couleur, elle vous a aussi permis de raconter des choses dans votre exposition ?
Oui, complètement. C'est beaucoup des images des années 50, 60, donc avec une colorisation assez particulière.
Très saturée.
Très saturée, très kitsch. Donc c'est aussi dédramatiser, montrer un peu le côté ridicule de ces mises en scène dont on parlait. Montrer que oui, c'est cet aspect kitsch, ridicule de mise en scène de carte postale.
Brecht Stevens, vous avez évoqué entrer parfois dans une véritable transe sur le travail, pour travailler sur le roi Méduse avec des sacs entiers de croquis, de collages accumulés pendant la création. Ça ressemble à quoi votre processus de création pour créer un album aussi riche?
C'est en train de devenir... c'est devenu plus intense. Je suis tome 2 de cette trilogie, oui. Je suis en train de
vous
le bosser de façon beaucoup plus intense.
Comment ça se passe?
J'étais en train de le faire dans la loge, là.
Ah.
Si, un peu.
Vous le faites partout.
Oui, je suis mi-phrase, là, en train de réécrire une phrase. Beaucoup plus qu'avant, pour ce livre, qui n'est pas encore fini, qui n'est pas encore sorti, je suis en train de déjà dessiner tout en petit.
D'accord.
Les rares fois de ma vie que j'ai donné un workshop, c'était d'ailleurs un conseil que je donnais aux étudiants de faire un croquis couleur de leur grand dessin en petit, en tout petit. Mais je ne le fais jamais moi-même, j'ai trop peu suivi mon propre conseil, je ne sais pas.
La relation père-enfant, elle est centrale dans Le Roi Méduse. Qu'est-ce qui vous fascine dans la figure du père, Brecht Stevens? Vous en avez fait un récit, et d'ailleurs, il est dédicacé à votre père pleinement présent d'emblée. Qu'est-ce que le père, pourquoi raconter le père? Pourquoi raconter cette relation-là?
J'ai encore été trop vague avec cette dédicace, je pense. Je voulais dire un père pas absent, tu vois, un père complètement qui m'a toujours vu et tenté de me comprendre et qui est pas comme le père dans le livre. un peu inatteignable.
Et donc pourquoi cette relation vous intéresse?
Je pense que tu vois, culturellement, le père est l'absent et l'inquiétant des deux parents, le plus à craindre. Culturellement, ça veut dire que pour que le lecteur ait peur tout de suite dans le livre, une mère absente marche mieux qu'un père absent, parce que une mère et un enfant ne nous inquiètent pas automatiquement tout de suite, mais un père seul avec son enfant. De même façon, j'ai fait la même chose dans Panthère il y a 10 ans.
Oui, vous avez fait disparaître la mère dès les premières pages.
Hop là, elle apparaît même pas. D'ailleurs, ma mère, qui lit parfois mon storyboard, a vu dans la marge une fois une petite note qui disait « Option mère vivante
». Ça a dû l'inquiéter.
Elle m'a remercié pour le considérer.
Camille Lévesque, d'ailleurs, là, vous travaillez en ce moment sur la figure maternelle, il me semble, vous me l'avez dit tout à l'heure.
De manière très large, mais sur plutôt l'idée d'une transmission matrilinéaire, donc entre ma mère, ma fille et ma grand-mère, et le lien à la grand-mère, le lien à la mère, justement dans cette histoire de l'arménité dans ma famille.
Il y a quelque chose qu'on retrouve aussi dans vos deux travaux. Ray Stevens, le père qui est complotiste, qui sombre un peu dans une folie et qui l'a fait subir à son fils. Il est très dangereux, il va manipuler son fils, il va lui faire subir des opérations, et en même temps, il reste assez tendre, donc il y a une ambivalence entre une figure protectrice et dangereuse. C'est ça la figure de ce père-là. Enfin, comment vous avez travaillé là-dessus?
Il est un peu un gourou.
Ouais.
Et son fils est aussi très amusé, intéressé, séduit. Vu que son père est un peu un personnage exubérant, peut-être un peu flatté de l'attention de son père. Mais on dirait que leur tendresse peut exister que s'ils partagent les mêmes croyances, quand même. Ce qui est d'ailleurs pas du tout rare, non?
Vous consacrez aussi ce récit au complotisme. Comment vous comparez peut-être la naïveté ou la façon de penser des enfants avec le complotisme? Est-ce qu'il y a des similitudes entre ces deux modes de pensée?
Oui, ceux des enfants, ceux des complotistes, ceux des psychotiques, et ceux de nous. Nous avons tous des petits schémas dans notre tête pour comprendre le monde. Il n'y a pas de honte là-dedans, c'est juste comme ça qu'on survit. Et on a tous pas mal de merde dans les yeux.
Camille Lévesque, la figure protectrice et en même temps menaçante, elle transpire aussi dans votre travail. C'est une figure qui revenait souvent dans les entretiens que vous avez menés.
Beaucoup, mais parce que je pense que je l'ai dirigée dans ce sens-là.
Que vous posez dans chaque entretien.
Pour aller un peu dans les extrêmes, pour au final proposer un livre, une exposition qui donne toutes les zones grises ou justement toutes les zones de couleur. On n'est pas dans la binarité, c'est pas justement un personnage oppressant ou un personnage protecteur.
On ne condamne pas, on n'honore pas.
Voilà, on est dans ces extrêmes et il y a toutes les zones grises au milieu.
Vous disiez que votre père était pleinement présent, donc vous ne vous inspirez pas, vous ne faites pas de l'autofiction. Quand on lit votre BD, on ne se dit pas que Bray Stevens a eu une enfance dramatique dans le complotisme.
Non, l'histoire n'est pas basée sur moi, mais il y a là-dedans des choses qui m'intéressent, des centres de mon intérêt.
Votre exposition Le Repère de la Méduse est actuellement à l'affiche au musée Thomas-Henri de Cherbourg dans le cadre de la Biennale du 9e art. Qu'est-ce qu'on peut découvrir dans cette exposition, Bray Stevens?
Il y a pas mal de lithographie, c'est une sorte de technique d'estampe. Il y a aussi l'appareil avec lequel on fait des lithographies, une sorte de machine très ancienne.
Vous les utilisez pour votre BD, vous utilisez cette technique-là?
Il y a beaucoup de planches qui sont peintes direct et il y a beaucoup de planches aussi qui sont faites avec une sorte de machine d'impression très vieux.
Et comment vous avez sélectionné les pièces de cette exposition? Qu'est-ce qu'on va découvrir en dehors de cette machine?
C'est très riche et détaillé, tout ce qui est accroché.
On peut voir les coulisses de la construction de ce premier tome?
Ouais, même ça. Ce qui est bien, parce que toutes mes planches sont finalement au fond des coulisses de gestion d'un livre, gestation.
Et pour finir, en quelques secondes, c'est quoi votre obsession avec la méduse?
J'ai pas d'obsession avec, mais c'est un magnifique animal totem. Il fait
qu'est-ce
du bien
qu'il raconte
dans le titre. C'est un peu un des créatures qui nous ressemble le moins. Donc on est très fasciné à le regarder, mais on peut pas du tout comprendre ce que c'est d'être une méduse.
Cette émission touche malheureusement à sa fin. Les vacances, c'est bien, mais avec le bon livre, la bonne série, le bon podcast, c'est encore mieux. Alors, on met quoi dans sa valise? C'est le kit de survie culturelle. Camille Lévesque, le roman à lire sur la paternité.
Je suis pas sûre d'en avoir, malheureusement. J'ai quelque chose qui s'en approche. C'est un roman que j'ai lu enfant vers 12-13 ans qui s'appelle Je m'appelle Tigre, qui est traduit de l'américain et qui parle d'une rencontre entre un enfant SDF et un adulte SDF qui le prend sous son aile comme une figure paternelle.
Bret Stephens, la BD à lire sur la figure de la mère.
Peut-être maman amoureuse de tous les enfants de Lucas Mété. Ça s'écrit M-E-T-H.
Pourquoi ?
C'est juste une sorte de personnage femme assez que j'ai jamais vu. Tous ces personnages sont très exubérants et enfin voilà, faut aller voir.
Les différentes recommandations de ce kit sont à retrouver sur le site et l'appli Radio France. Évidemment, merci à tous les deux.
Merci.
Merci.